Voilà, alors on reprend le colloque cet après-midi. Je vous propose tout de suite une toute petite expérience de pensée. Il n'est pas 14h10, mais 14h. Comme ça, on est à l'heure. Alors, nous commençons avec Alain Vaillant, qui est professeur à Nanterre, qui a beaucoup travaillé sur le journalisme, beaucoup travaillé sur l'histoire littéraire du 19e siècle, et qui assez récemment, je ne me souviens plus l'année, mais vous avez publié un livre sur Baudelaire, poète comique. Alors aujourd'hui, Alain Vaillant va parler de modernité de vers, du vers, anti-modernité de la prose, le paradoxe de la poétique baudelairienne.
Je vous remercie. Baudelaire est-il moderne ou anti-moderne ? La question n'est pas nouvelle, elle date déjà, à vrai dire, de l'époque même où est apparue dans le ciel tranquille de la littérature française cette étrange météorite qu'a constitué en 1857 le livre des Fleurs du Mal, et la réponse qu'on y fait détermine en grande part le jugement que chacun porte sur la valeur de l'œuvre. Sainte-Beuve, dans l'article qu'il lui consacre, dans le constitutionnel du 20 janvier 1862, a préféré prudemment éluder le problème et parle du recueil, comme je cite, d'un singulier kiosque fait en marqueterie, d'une originalité concertée et composite qui, depuis quelque temps, attire les regards à la pointe extrême du Kamtchatka romantique. Baudelaire ne serait donc ni moderne ni anti-moderne, mais à la fois étrange et étranger, exilé dans un lointain exotique. L'anticlérical Vallès, au contraire, explique les ambiguïtés complaisamment cultivées de Baudelaire par son incapacité à se débarrasser de ses vieux réflexes catholiques, et il réservera au poète tout juste mort un réquisitoire d'une violence inouïe en guise d'éloge funèbre dans le numéro de son journal La Rue, daté du 7 septembre 1867. Baudelaire y apparaît comme un mixte raté, je cite, du prêtre, de la vieille femme et du cabotin. C'était surtout un cabotin, renchérit Vallès qui précise encore, il avait cet impie-là, des sournoiseries de séminariste et le tempérament d'un clérical. Il avait tout juste l'audace du mauvais prêtre qui dévorait d'appétit caché, tricherait avec sa conscience et tâcherait de satisfaire à la fois sa foi divine et sa curiosité malsaine. Cette fois, Baudelaire était pire qu'un anti-moderne, un réactionnaire frustré jouant au moderne pour se faire peur à lui-même, tout autant que pour effrayer le lecteur. En fait, les commentaires des contemporains, une fois qu'on décide d'en négliger les partis pris, la condescendance affectée ou la malveillance expriment une même perplexité qu'on peut traduire en ces termes. Baudelaire était-il un moderne, l'observateur éclairé et passionné du monde en pleine mutation qui était le sien, ou au contraire un artiste fondamentalement classique ou anti-moderne, tourné vers un idéal esthétique dont il redoutait l'effondrement inéluctable, viscéralement hostile à ce qu'il nomme, dès 1860, l'américanisation du monde, qu'il juge soumis à la recherche exclusive du bien-être matériel. Car la préoccupation de Baudelaire est autant esthétique qu'idéologique. Pour que l'alternative soit exacte, il ne faudrait pas opposer l'anti-moderne au moderne, mais plus précisément un classicisme anti-moderne, un romantisme moderne. Cependant, le classicisme qui renvoie au XVIIe siècle des classiques scolaires garde encore quelque chose d'étriqué et d'étroitement nationaliste. Or, depuis la querelle des anciens et des modernes qui prend précisément sa source sous le règne de Louis XIV, on sait bien que la pierre de touche de l'art européen reste l'Antiquité, cette Antiquité dont les classiques ont fait leur modèle vénéré, mais qui, en plein XIXe siècle, brille à nouveau de l'éclat extraordinaire d'une jeunesse mystérieusement retrouvée. Et c'est pourquoi l'analyse à la fois la plus simple, la plus lumineuse et la plus profonde du phénomène Baudelaire, je l'ai trouvée tout au début de mes recherches baudelairiennes, au détour d'un volume des Hommes de bonne volonté de Jules Romain, Les Amours enfantines, publié en 1932. Gerfagnon et Jalès, deux normaliens, y discutent dans une turne de la rue d'Ulm de politique, puis Jalès, admirateur de Baudelaire, s'efforce d'expliquer sa passion à son camarade. Jalès écarte de quelques formules méprisantes le baudelairisme de l'époque, cette complaisance à l'égard de l'univers sulfureux qui faisait alors de Baudelaire un poète à la mode. Je cite « Nombre des admirateurs de Baudelaire que je rencontre me dégoûtent, et pas seulement par la façon dont ils en parlent, non par leur manière d'être, la conception de la vie que je fais chez eux, par leur regard, au lieu un peu maniaque, par le relent de volupté moite et enfermé qui les accompagne. Ce qui retient au contraire l'attention de Jalès, c'est non le style ou la forme, ces mots sont trop faibles ou trop restrictifs, mais l'extraordinaire impression de densité, de puissance que la maîtrise artistique du vers donne aux mots du poème, je cite, « L'éloge qui vient, c'est densité incomparable. » Mais il a trop servi et hors de propos. Exactement, chacun de ces vers, Jalès parle ici de la chevelure, produit l'effet d'une série de décharges de sens intenses et rapprochées. Tout l'espace du vers est occupé, bondé immédiatement. Il n'y a plus la moindre absence de sens. Ou ce qui revient en même, on n'est pas obligé d'attendre qu'une seule source de sens, qu'une seule explosion de sens finisse par occuper tout l'espace du vers au prix d'une dilatation excessive, comme il arrive souvent, il faut bien le dire, chez Hugo. Et le miracle, c'est que ce résultat soit obtenu sans disparate et sans trace d'obscurité. Au contraire, le vers crève de signification lumineuse. Et le normalien Jalès termine en mettant directement en relation cette intensité maîtrisée de la poésie de Baudelaire avec la connaissance intime du latin et de ses ressorts aussi bien syntaxiques que lexicaux. Je cite encore, en d'autres termes, « Je me demande très sérieusement si Baudelaire n'est pas le premier qui ait retrouvé dans les temps modernes une certaine intensité admirable dont on ne peut pas avoir l'idée si l'on n'a pas, comme toi et moi, fait du latin jusqu'à l'os. » Peu importe ici que cette imprégnation latine, avec la supériorité qui est alors habituelle de reconnaître à la langue matricielle du français, relève du mythe collectif ou de la réalité linguistique. Mais l'alternative est claire. D'un côté, il y aurait le Baudelaire moderne. Cette modernité à la fin du XIXe siècle et encore en 1932 est liée à son exploration des zones obscures de la psychologie et de la sexualité, mais elle pourra devenir dans la tradition benjaminienne et en France après la Seconde Guerre mondiale celle de la face cachée du Second Empire, de la société bourgeoise et du consumérisme capitaliste. De psychologique et sexuelle, la modernité est devenue sociologique, politique, culturelle, voire économique. De l'autre, se tiendrait un Baudelaire sinon anti-moderne, du moins foncièrement opposé au monde du flux et de l'éphémère où il baigne, réactualisant de poème en poème les vertus essentielles qui, de toute éternité et à coup sûr depuis l'Antiquité, seraient celles de la vraie poésie, la compacité, la force de signification, l'absolue et lumineuse cohérence du vers. Or, Jules Romain a clairement choisi son camp, et là est son erreur. Non qu'il se trompe de camp, mais parce qu'il n'y a pas lieu de choisir un camp pour déserter l'autre. Car le miracle baudelairien, le mot de miracle est celui de Romain, il s'impose en effet pour Baudelaire à condition de lui ôter toute connotation religieuse, bien sûr. Le miracle consiste précisément à réunir les deux camps, à concilier la plongée dans l'homme et la société moderne et l'élaboration d'une forme qui se veut d'emblée intemporelle et incorruptible, un granit entouré d'une vague épouvante, selon la formule d'un Despline, en somme, à annuler artistiquement l'antinomie du moderne et de l'antimoderne. La double thèse que je voudrais soutenir ici peut se résumer ainsi. D'une part, le moderne et l'antimoderne sont consubstantiels l'un à l'autre dans l'œuvre baudelairienne. D'autre part, cette consubstantialité est intimement liée à la forme poétique elle-même et au rôle paradoxal que l'écrivain lui assigne pour mener à bien son projet littéraire. Il est d'autant plus nécessaire, me semble-t-il, d'insister en ouverture sur ces enjeux proprement esthétiques que, pour reprendre la vieille distinction scolaire, la critique me semble depuis quelques décennies s'attacher presque exclusivement au fond, au détriment de la forme, en fait depuis qu'elle s'est détournée des fleurs du mal pour s'intéresser au spleen de Paris. Alors, la critique a raison et tort à la fois. Elle a raison parce qu'il y a en effet au cœur de tout texte de Baudelaire un mixte très reconnaissable de fascination et de répulsion à l'égard des mutations de la société occidentale, le consumérisme, la technologie, la culture médiatique, les innovations en matière d'illustration et de photographie, l'urbanisme, etc. Il voit ainsi grandir en lui, à mesure que les années passent et que sa lassitude augmente, une sorte d'effarement obsessionnel et presque haineux qui, dans ses notes intimes, est exprimé avec une violence et une trivialité très saisissantes. Cette antimodernité est donc une donnée structurelle qui concerne aussi bien la psychologie de l'homme que la poétique de l'œuvre. Mais la critique a tort de situer ici la singularité de Baudelaire, tout simplement parce que cette attitude idéologique est pour l'époque d'une absolue banalité. Sitôt qu'est retombé l'emballement optimiste qui a suivi la révolution de 1830, il n'est pas d'intellectuel ni d'écrivain qui, à moins d'avoir fait allégeance au libéralisme de la monarchie de Juillet, n'ait manifesté son désenchantement, son désillusionnement, sa colère, sa rancœur, sa tristesse, hein, tout ce mot soit de Balzac, soit de Baudelaire, à l'égard d'une évolution sociale où il ne reconnaît plus aucune de ses valeurs ni de ses espérances. Pour le dire d'une formule, on découvre alors, avec la brutalité qu'occasionnent toujours les révolutions, la réalité du capitalisme industriel, avec tout l'éventail de ses conséquences culturelles, tantôt séduisantes, tantôt inquiétantes, et le choc est rude. Nous ne sommes pas encore aujourd'hui sortis de cette onde de choc. Autour de 1830, puis de 1848, ce mal du siècle s'est traduit par les trois grandes idéologies entre lesquelles se sont partagés tous les anti-libéraux, le progressisme qui fait confiance au progrès de la démocratie et de l'histoire pour corriger en avançant les travers du monde moderne, l'antimodernisme réactionnaire et contre-révolutionnaire qui veut effacer les traces de la Grande Révolution, source présumée de tous les maux et dont la référence principale est la doctrine mestrienne, l'antimodernisme apolitique et ironique qui se met en marge de l'histoire et se contente d'en rire tout en se réfugiant dans les plaisirs subtils de l'art et de la littérature. Admettons, pour l'illustrer et incarner ces différentes positions, que Hugo représente le progressisme, Balzac l'antimodernisme réactionnaire, Gautier l'antimodernisme artiste, Baudelaire, lui, est passé successivement de l'une à l'autre, à moins qu'il n'ait pratiqué les trois ensemble à des dosages variables selon l'état de sa mélancolie. Il est encore une autre préoccupation que partagent tous les créateurs de l'époque, peintres, romanciers ou poètes. Comment parvenir à concevoir des œuvres d'art dignes de ce nom à partir de la représentation d'un monde qu'on juge désormais banal, laid, méprisable. Au-delà de l'appréciation idéologique, les artistes et les écrivains se trouvent en effet confrontés à un obstacle qui met immédiatement en péril la validité même de toute entreprise artistique. Alors chacun y va de sa théorie et de son système esthétique. Balzac sauve le roman par la science, Tocqueville assigne à la poésie une mission démocratique, Flaubert hausse le réalisme au niveau de l'art, Musset, au contraire, qui ne croit plus en rien, renonce à l'art au nom de la médiocrité régnante, et Baudelaire, lui, invente la modernité. Donc non seulement toutes ces condamnations du monde moderne ne sont qu'un concentré des clichés qui remplissaient les journaux, petits ou grands, tout au plus, Baudelaire y a-t-il appliqué son intelligence avec une intensité, une hargne, une violence extraordinaire, mais son originalité n'est même pas d'avoir conçu une théorie de la modernité censée surmonter artistiquement son dégoût existentielle de son époque, très précisément, elle consiste dans sa capacité concrète, après avoir conçu une telle théorie, à la mettre en œuvre dans Les Fleurs du Mal. Alors, il est temps de dire un mot de cette modernité si rebattue, qui recouvre en réalité une idée toute simple. La notion dont le premier emploi dans le domaine littéraire semble dater de 1822 et devoir être attribuée au jeune Balzac, puisqu'on la retrouve dans le domaine architectural dès le XVIIIe siècle, est une sorte de mot-valise. Il est fait du télescopage des mots « antiquité » et « moderne » et pourrait être glosé ainsi. De même que l'époque antique a donné le jour à une culture authentique et originale qu'on nomme l'Antiquité, l'Antiquité désignant en l'occurrence non pas la période elle-même, mais la civilisation qui en découle, il n'y a pas de raison que les temps modernes n'engendrent pas à leur tour une civilisation d'une qualité équivalente qu'on appellera par jeu de mots la modernité. Pour Baudelaire, la manœuvre consiste d'abord à accepter le monde moderne tel qu'il est, à s'en imprégner, à en pénétrer les ressorts les plus intimes, puis à transfigurer ce matériau pour l'élaboration d'œuvres comparables en valeur à celles de l'Antiquité. Mais aux temps anciens, les choses étaient simples, la vie y était naturellement, c'est ainsi qu'on se la représente bien sûr, la vie y était naturellement majestueuse, belle, héroïque, tournée vers l'éternité de ses dieux, de ses héros, de ses paysages lumineux. L'artiste n'avait qu'à reproduire ce que chacun avait sous ses yeux, du moins donc comme se l'imagine l'homme du XIXe siècle. Baudelaire le dira dès le salon de 1846. Qu'était-ce que cette grande tradition, si ce n'est l'idéalisation ordinaire et accoutumée de la vie ancienne, vie robuste et guerrière, état de défensive de chaque individu qui lui donnait l'habitude des mouvements sérieux, des attitudes majestueuses ou violentes, ajoutée à cela la pompe publique qui se réfléchissait dans la vie privée, la vie ancienne représentait beaucoup. Elle était faite surtout pour le plaisir des yeux et ce paganisme journalier a merveilleusement servi les arts. Rimbaud, qui partage avec la plupart de ses contemporains cette vision idéalisée, parlera en des termes analogues dans sa lettre à Paul Damny du 15 mai 1871 de la vie harmonieuse de la Grèce antique, où ajoute-t-il « vers et lire rythme l'action ». En revanche, pour l'époque moderne, où le sublime est désormais englué dans la laideur du quotidien, il est nécessaire d'extraire la beauté et l'héroïsme de sa gangue de banale médiocrité. Il n'y a donc pas de différence de nature entre l'Antiquité et la modernité. Il faut dans tous les cas, sur la formule célèbre, tirer l'éternel du transitoire, puisque toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, autre citation bien sûr, quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. Mais disons que dans le monde tel qu'il est devenu, la tâche est beaucoup plus ardue. Dans l'Antiquité, l'éternel est visible à ciel ouvert. Il suffit de se baisser pour écrémer la beauté absolue éternelle à la surface générale des beautés diverses. À l'époque moderne, il faut aller au fond de la mine, remonter ses manches, se salir les mains et patiemment, laborieusement, transformer la boue en or. Or, pour que cette alchimie opère, Il faut garder de l'antiquité, non pas bien sûr son fatras de Dieu, de vieux décors et de fastes poussiéreux, comme le feront les mauvais parnassiens, mais seulement une leçon essentielle, hein, je cite Baudelaire, le peintre de la vie moderne, l'art pur, la logique, la méthode générale, c'est-à-dire la connaissance lucide des moyens et la maîtrise calculée des effets. Car à la différence de l'artiste antique, l'artiste moderne ne se contente pas de reproduire la beauté, mais il la produit. Et il ne peut le faire qu'avec une conscience suraiguë du processus de création. Ainsi, à strictement parler, la modernité n'est pas l'époque moderne, n'est pas davantage la culture propre à l'époque moderne, mais exclusivement l'opération d'extraction artistique du beau effectuée à partir de cette culture, le pont jeté entre ce que Baudelaire nomme respectivement le transitoire et l'éternel. À l'intérieur de la conscience de l'artiste, l'opposition bipolaire entre le transitoire et l'éternel se retrouve donc très logiquement dans l'aphorisme capital et très célèbre de Mon cœur mis à nu, qui résume à lui seul toute la poétique de Baudelaire, de la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là. La vaporisation est le mouvement centrifuge par lequel le poète renonce provisoirement à son unité pour se dissoudre dans le monde moderne. La centralisation est le retour centripète sur soi qui lui permet de se rétracter sur lui-même, de se ressaisir, de transformer ce bain de réalité en œuvre d'art. Cette fois dans Fusée, le couple vaporisation-centralisation est expliqué et prolongé par le deuxième grand précepte baudelairien, deux qualités littéraires fondamentales, surnaturalisme et ironie. Le surnaturalisme, qui est en fait très proche de la voyance hugolienne ou rimbaldienne, désigne le pouvoir qu'a l'artiste ou le poète de se fondre dans le réel, d'avoir le sentiment de l'existence, je cite, si immensément augmenté, qu'il se trouve doté du pouvoir de dépasser les apparences extérieures et d'éprouver de façon exceptionnellement intense les phénomènes sensoriels élémentaires. Baudelaire détaille ses composantes naturelles, je cite, intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur, retentissement dans l'espace et dans le temps. Mais l'ironie est tout aussi indispensable. Si le poète ou l'artiste adhérait entièrement et sans réserve à son désir de communion hyperesthésique avec le monde, il céderait à l'illusion d'union fusionnelle qui, pour Baudelaire, a été le péché mortel du romantisme. La vaporisation ne serait plus alors contrebalancée par le mécanisme antagoniste et nécessaire de la centralisation. C'est pourquoi au surnaturalisme doit être consubstantiellement liée l'ironie, la tournure d'esprit satanique, dit-il, qui remet à distance le rêve utopique. L'ironie grâce à laquelle l'esprit reconstitue sa nature singulière et autarcique rend philosophiquement acceptable le surnaturalisme. Mais surtout, en plaçant l'imagination sous le contrôle de l'esprit critique, elle transforme en instrument d'invention artistique et de production textuelle ce qui n'aurait pu être qu'un penchant psychologique, voire un symptôme psychotique, si l'on admet que la pulsion à sortir de soi relève de la pathologie schizophrénique. Le surnaturalisme et l'ironie s'appellent mutuellement, formant un attelage original qui fait toute la singularité de l'esthétique baudelairienne de la modernité. Le surnaturalisme hyperesthésique a besoin de l'ironie pour constituer un processus esthétique à proprement parler, mais c'est grâce au surnaturalisme que l'ironie peut se muer à son tour en fabrique d'images et d'effets artistiques. Or, chez Baudelaire, ce recentrement ironique de l'écriture est opéré par le travail de versification. Le vers syllabique est la clé de voûte de la poétique baudelairienne, la pièce centrale et essentielle sans laquelle le système esthétique s'effondrerait et l'œuvre n'offrirait plus qu'un amoncellement prodigieux mais informe d'images improbables et provocatrices. Alors que la prose poétique a l'allure d'une belle et rêveuse exploration des profondeurs, le vers est le matériau exclusif de cette poésie de l'image qui est l'idéal visé par Baudelaire. Le poème syllabique a pour principale vertu d'être un système relationnel strictement calculé, où dans l'espace étroit du vers d'abord, du poème bref ensuite, tout élément compte et fait sens, en fonction de ses liens multiples avec les autres éléments, la place de chaque mot, sa nature grammaticale et morphologique, sa fonction, sa structure phonique, les sèmes qu'il constitue, la contrainte syllabique contracte la langue, la densifie et la pétrifie. De surcroît, elle laisse deviner ou imaginer, derrière le moindre phénomène discursif, le geste scriptural et l'intention octoriale. C'est pourquoi elle est toujours virtuellement ironique, parce qu'elle est le signe indubitable, comme la toilette du dandy ou le maquillage outrageux de la prostituée, de la rétraction centralisatrice du sujet moderne. Alors, cette conception proprement pétrifiante de la versification se traduit notamment par une bizarrerie formelle que les commentateurs ont très tôt relevée. Si on reconnaissait la maîtrise technique de Baudelaire, on s'étonnait que cette maîtrise ne produisît pas la poésie musicale, euphonique ou harmonieuse qu'on devait logiquement attendre, mais au contraire un vague malaise lié à l'abus des diérèses, des répétitions phoniques, des suites de sons perçues comme dures ou désagréables, comme si le poète cherchait volontairement à créer chez le lecteur, lisons à voix haute comme il convient, pour tout poème versifié, ce sentiment de gêne articulatoire. En réalité, il ne faut pas dire « comme si », mais « parce que ». Le but artistique de Baudelaire, qui est aux antipodes du rêve de musicalité fluide et hypnotique qu'avaient popularisé les méditations de Lamartine, est bien de réaliser, grâce au vers, cet état de mise sous tension continue du discours, grâce auquel tout devient essentiel et tout peut aussi advenir de la première à la dernière syllabe. Baudelaire exprime parfaitement ce qu'il a en tête lorsqu'il désigne sa méthode dans l'un de ses projets de préface, déjà cité, comme une rhétorique profonde. La versification n'est pas chez lui une simple contrainte métrique s'ajoutant à la rhétorique de la prose, mais elle est la rhétorique même quintessenciée et sublimée grâce à la mécanique du vers qui permet au poète de mettre l'hyperesthésie sensorielle du voyant surnaturaliste au service de l'hyperesthésie poétique du versificateur ironique. Car la versification française a un privilège unique qui est la totale artificialité de sa nature strictement syllabique et comptable. On se rappelle que cette artificialité a été traditionnellement considérée, on l'a dit aussi ce matin, comme le point faible de la poésie française, et que Victor Hugo, en découplant à l'intérieur du poème la syntaxe et le maître, la prose et le vers, a essayé de remotiver littérairement l'emploi de la métrique. Baudelaire, pour qui l'artificialité concertée est le socle de son esthétique, ne s'est pas contenté de prendre son parti de l'arbitraire numérique du maître, il en a fait le principal garant artistique de sa poétique pour figer, fixer et ordonner à la surface du vers les forces tectoniques qu'il agite en profondeur. Ne coexiste donc pas en Baudelaire un écrivain moderne curieux du monde et du temps qui passe et un versificateur anti-moderne, frileusement replié sur une poétique désuète et une forme mesquine, dit Rimbaud, qui aurait enfin trouvé la voie de la vraie poésie avec le poème en prose. Par sensibilité, par idéologie et par éducation, il était sans doute un anti-moderne contestataire, au moins autant qu'un moderne curieux de la nouveauté. En revanche, dans la mesure où la modernité désigne non pas la culture moderne à l'état brut, mais son recyclage artistique, la versification apparaît incontestablement comme l'instrument indispensable de la modernité baudelairienne, peut-être même la seule chose authentiquement moderne, originale, tournée vers l'avenir, au milieu d'un amas de clichés d'époque, de curiosités vaguement désenchantées et rancies dans le creuset de sa mélancolie pathologique. On mesure ici le gouffre qui sépare Baudelaire des poètes parnassiens. L'un et les autres ont une même conscience des ressources de la métrique, et leurs techniques sont à bien des égards, pour tout ce qui touche au rythme, sont à bien des égards analogues pour tout ce qui touche au rythme et à la pratique de la rime. Mais alors que le vers syllabique, par l'allure pétrifiée et sculpturale que lui donne le Comte de Lille, est le moyen d'une belle et majestueuse bouderie à l'égard d'un environnement décidément trop prosaïque, c'est au contraire grâce à sa poétique paradoxale que Baudelaire se résout à se salir les pieds, et les pieds de sa poésie, dans la boue du monde. Non seulement la modernité est chez lui inséparable de sa versification, mais elle en est à la fois la conséquence et la condition nécessaire. Et si aucun poète après lui ne pourra écrire un seul alexandrin en faisant comme si les fleurs du mal n'avaient pas eu lieu, ce n'est pas pour le ressassement de ces lieux communs, mais bien parce qu'il a définitivement doté la poésie française de ce vers aussi beau que de la prose, formule de Victor Hugo, que Victor Hugo avait appelé de ses voeux dans la préface de Cromwell, et qui, dès 1827, contenait déjà, pour qui y prête attention, la définition baudelairienne de la modernité. À cette différence près, qui n'est pas mince idéologiquement, que l'anti-moderne Baudelaire veut conférer à la prose du monde la beauté hiératique du vers, alors que, à l'inverse, le démocrate Hugo entendait insuffler au vieux maître de la poésie française la vitalité éternellement jeune de la parole prosaïque. Alors je ne peux terminer sans dire un mot du spleen de Paris. Pourquoi donc, m'objectera-t-on, Baudelaire a-t-il terminé sa carrière poétique par des poèmes en prose, si, comme je le prétends, il avait parachevé son chef-d'œuvre de la modernité avec le recueil versifié des Fleurs du Mal ? Il me semble que la réponse est incluse dans la question. C'est justement parce qu'il avait parachevé son chef-d'œuvre qu'à moins de le répéter indéfiniment, il lui fallait passer à autre chose. Il avait mis une quinzaine d'années à le terminer, retardant patiemment le moment de publier. Puis après la condamnation de 1857, il en avait profité pour le reprendre en 1861, en lui ajoutant la section capitale des tableaux parisiens, et notamment ces sept vieillards dont il écrira dans une lettre à Jean Morel, le directeur de la Revue française, qu'il y avait, je cite, « réussi à dépasser les limites assignées à la poésie ». Chez Baudelaire, le plaisir de l'esbroufe littéraire n'interdit jamais la sincérité. Désormais, tout ce qu'il écrira servira d'abord à commenter, à expliquer, à justifier le recueil qui était l'œuvre de sa vie, ensuite à remâcher la rancœur qu'il éprouve à n'être jamais assez bien compris. D'abord les poèmes en prose du spleen, qu'il nous est rigoureusement impossible de lire en faisant abstraction des fleurs du mal, autrement que comme une variation ou une paraphrase en prose du grand livre. Ensuite, les notes brutes qu'il consigne dans ses écrits intimes. Cependant, il vient alors à l'esprit, en forme d'objection, les mots mêmes du poète, hein, ces lignes troublantes et bien connues de la lettre dédicace à Arsène Housset, « Quel est celui de nous, un texte déjà cité, qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée, pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?» Mais comment ne pas voir que cette poésie immatérielle fait signe, de façon peut-être directe et volontaire, au lyrisme spiritualisé éthéré d'un Lamartine ? En 1834, dans son manifeste des destinées de la poésie, Lamartine en appelait déjà une poésie, je cite, qui fut l'écho profond, réel, sincère, des plus hautes conceptions de l'intelligence, des plus mystérieuses impressions de l'âme, et il concluait, la poésie s'est dépouillée de plus en plus de la forme artificielle, elle n'a presque plus de forme qu'elle-même, à mesure que tout s'est spiritualisé dans le monde, elle aussi se spiritualise. Or Baudelaire, à l'opposé de Lamartine, a toujours pensé comme Hugo que l'action efficace sur le réel impliquait la mise en œuvre de forces matérielles, que le poète était d'abord un artiste manipulant des outils et forgeant des formes. Il juge de surcroît que le monde n'a jamais été aussi matérialiste qu'à l'époque moderne et que dans ces circonstances, il ne doit surtout pas se satisfaire d'un lyrisme idéaliste et évaporé. Il faut le rappeler une dernière fois, pour Baudelaire, pas de vaporisation sans centralisation, pas de poésie sans travail, sans le modelage laborieux et artificiel du matériau verbal, sans ce qu'il nomme le mécanisme des trucs, hein, dans un projet de préface aux fleurs du mal, je cite encore, toutes les loques, les phares, les poulies, les chaînes, les repentirs, les épreuves barbouillées, bref, toutes les horreurs qui composent le sanctuaire de l'art, car le, je cite encore, charlatanisme indispensable dans l'amalgame de l'œuvre est le tribut ironique que doit payer à la poésie l'écrivain surnaturaliste. Alors revenons au texte même de la lettre dédicace. Quel est celui de nous qui n'a pas rêvé le miracle d'une prose poétique ? Baudelaire parle d'un miracle, et bien sûr il ne croyait pas au vrai miracle. Il ne s'agissait pour lui que d'un rêve, donc d'une illusion, comme tant de songes qui traversent les fleurs du mal. Le poète rêvant à cette poésie capable de transcrire magiquement les ondulations de la rêverie, que la répétition soit volontaire ou non, elle est très significative, est comparable à Achille, songeant à Patrocle, mort et le voyant vivant. Alors raconte Homère, je cite, il tend les bras mais sans rien saisir, l'âme, comme une vapeur, est partie sous terre dans un petit cri. Achille se réveille, se rend compte de son erreur et pleure. Baudelaire, lui, se contente de conclure. Sitôt que j'eus commencé le travail, je m'aperçus que non seulement je restais bien loin de mon mystérieux et brillant modèle, il parle de Gaspard de la Nuit, d'Albazus Bertrand, mais encore je faisais quelque chose, si cela peut s'appeler quelque chose, de singulièrement différent, accident dont tout autre que moi s'enorgueillirait sans doute, mais qui ne peut qu'humilier profondément un esprit qui regarde comme le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire. Quant à la nature de ce quelque chose dont Baudelaire ne dira rien de plus, il laisse au lecteur, à vous, à nous, le soin de l'apprécier. Mais à l'en croire, il a formellement renoncé à produire cette description de la vie moderne qu'il projetait sur le modèle fourni par Albazus Bertrand. En revanche, le lien avec les fleurs du mal est toujours soigneusement maintenu. Le spleen de Paris devait compter 66 poèmes, soit l'exacte moitié de l'édition de 1861, à condition d'ajouter aux 126 poèmes publiés les 6 pièces condamnées du recueil de 57. Il en comportera finalement 50, soit la moitié des 100 pièces du recueil de 1857. Dès les premières lignes, La lettre dédicace adresse ainsi à son lecteur un malicieux message antifrastique. Le miracle rêvé d'une prose poétique y joue exactement le même rôle que dans l'adresse au lecteur qui ouvrait les fleurs du mal, l'apostrophe lancée à « l'hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère » ou, faisons-y attention, l'aveu d'hypocrisie du premier hémistiche annulait par avance, évidemment, la déclaration d'amour fraternel du second. Si bien que, de façon doublement mystificatrice, la modernité du spleen réside précisément, non pas dans l'usage de la prose, mais dans le voile d'ironie dont l'absence de vers enveloppe les 50 textes du recueil. Je vous remercie.